Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Eric Manilakidza en direct de Washington. Il est 19h30, temps universel. Les titres de cette édition. Sommet à Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Au centre des attentions, l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016 qui continue d'alimenter la polémique. En Afrique, l'Érythrée et l'Éthiopie continuent de renforcer leurs liens. Isaias Afwerki a rouvert l'ambassade de son pays à Addis Abeba après 20 ans de rupture des relations diplomatiques. Crise d'austérité et répression du Tchad, dit le dernier rapport d'Amnesty International.
Donc vous voyez, c'est un peu comme un effet boule de neige. Les gens ne sont pas contents parce qu'il y a les mesures d'austérité. Ils manifestent leur mécontentement.
RDC, les funérailles d'Étienne Tshisekedi suscitent toujours des interrogations 16 mois après son décès.
Il y a un problème, il est vrai, de date, ça a pris de temps par rapport à la date qui a été avancée, les 30. Mais ce qui est certain est que le rapatriement du corps du fait président national de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, aura bel et bien lié.
Et l'équipe de France, championne du monde de football, la Coupe du Monde 2018, de retour à Paris. On en parlera bien évidemment dans 10 minutes dans le journal des sports de Yacouba Ouédraogo. Sommet Donald Trump, Vladimir Poutine à Helsinki. Après des pourparlers entre les deux chefs d'État, le président américain a qualifié de désastre l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, assurant en avoir parlé directement avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors de leur tête-à-tête. Le point avec John Lydon.
Le président russe Vladimir Poutine a jugé ses pourparlers avec son homologue américain très réussis et très utiles, en estimant qu'ils avaient commencé à mieux se comprendre. Donald Trump a lui aussi déclaré avoir eu un dialogue direct, ouvert et très productif. Le locataire de la Maison-Blanche et l'homme fort du Kremlin se sont retrouvés un début d'après-midi dans le palais présidentiel au cœur de la capitale finlandaise qui a une longue tradition d'accueil de sommets Est-Ouest. Après plus de 90 minutes d'entretien et un déjeuner de travail, les deux hommes ont fait face à la presse. Très vite, les questions des journalistes se sont focalisées sur l'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016. Donald Trump a dit avoir posé la question directement à Vladimir Poutine.
There was nobody to collude with. Il n'y avait personne avec qui conspirer. Il n'y a pas eu de conspiration avec la campagne. À chaque fois qu'on entendait 14 ou 12 inculpations, cela n'a rien à voir avec « franchement ». Et en plus, ils disent, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la campagne. On a mené une brillante campagne, c'est pour cela que je suis président. Merci.
A réitéré que la Russie ne s'est jamais intégrée dans les élections américaines en précisant que M. Trump avait évoqué ce sujet qui fait l'objet d'une enquête aux États-Unis.
Une fois de plus, le président Trump a mentionné la soi-disant interférence de la Russie durant les élections de 2016 et j'ai dû réitérer ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, y compris durant nos rencontres. La Russie n'a jamais interféré dans les affaires intérieures des États-Unis.
Monsieur Poutine a proposé à Donald Trump d'interroger ses agents. L'enquête effectuée à Washington sur l'ingérence russe en faveur de Trump dans la campagne présidentielle de 2016 a été relancée de façon spectaculaire à 3 jours du sommet par l'inculpation de 12 agents du renseignement russe accusés d'avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate.
Les précisions de Johnny Lydon. Retour en Afrique, en Côte d'Ivoire. Le parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2020 doit être officiellement lancé aujourd'hui à Abidjan. Charles Kofi Dibi, Patrick Hachi et Siyandou Fofana, présents en qualité d'observateur pour le compte du président du PDCI, Henri Konan Bédié. Récemment, un nouveau gouvernement a été nommé avec des personnalités toutes favorables à ce parti unifié. Les syndicats des travailleurs et les organisations de la société civile guinéenne appellent à une marche demain à Conakry. Pour la première fois, les deux groupes manifestent ensemble contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le gouverneur de Conakry a annulé la marche programmée ce lundi. Les organisateurs ont porté plainte pour abus de pouvoir. L'affaire sera jugée cette semaine. RDC, 5 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans l'est troublé du pays. L'attaque a visé une position de l'armée à Kabasewa, à 60 km à l'est de Beni, dans la province du Nord Kivu. Et dans la Corne de l'Afrique, la réouverture de l'ambassade érythréenne à Addis Abeba ce lundi, après 20 ans de rupture des relations diplomatiques. C'est le président Isaias Afwerki lui-même qui a rouvert le bâtiment. Abdourahmane Dieng.
La réouverture de cette ambassade à Addis Abeba était le dernier geste symbolique de 3 jours de visite officielle du chef de l'État érythréen en Éthiopie, destiné à consolider la fin des hostilités entre les deux pays. Cette visite intervient quelques jours à peine après la signature, le 9 juillet à Asmara, d'une déclaration conjointe de paix et de coopération mettant fin à 2 décennies d'état de guerre entre les deux pays. C'était lors d'une visite historique du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les images de la télévision publique éthiopienne EBC montrent Isaias Afwerki hissant le drapeau érythréen et acceptant des mains de M. Abiy les clés du bâtiment situé dans le centre de la capitale éthiopienne et rempli de vieux meubles couverts de poussière auxquels personne n'a apparemment touché depuis des années. Lors de ces 3 jours, M. Isaias a aussi visité un important parc industriel et pris part à un dîner et un concert auquel ont assisté des milliers d'Éthiopiens. L'Éthiopie et l'Érythrée avaient expulsé leurs diplomates respectifs au début de la guerre qui les a opposés entre 1998 et 2000, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes et qui a fait quelque 80 000 morts selon les estimations.
Au Mali, une dizaine de civils ont été tués par des djihadistes présumés hier dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne. Ils ont ouvert le feu sur les civils de la communauté Ibogolitane et Idarfane, de communauté Touareg. Au Nigeria, des dizaines de soldats ont été tués dans une attaque de Boko Haram contre une importante base militaire. C'était ce week-end dans le nord-est du pays. Raissa Gironde.
Les insurgés ont envahi ce week-end une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe au lendemain d'une autre attaque visant des soldats dans l'état voisin du Borno. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités, mais une source militaire a affirmé à l'AFP avoir jusque-là perdu 31 soldats et que 24 soldats blessés ont été évacués à l'hôpital pour être soignés. L'attaque a été attribuée par des miliciens à la faction Abu Moussab al-Barnawi, affiliée au groupe État islamique qui cible notamment les forces nigérianes. Parallèlement, des opérations de recherche continuaient dans l'État du Borno pour retrouver 23 soldats portés disparus depuis une embuscade tendue vendredi dernier. Le porte-parole de l'armée a toutefois démenti que des soldats manquaient à l'appel, assurant que cette attaque avait été repoussée avec succès. Le président Muhammadu Buhari a répété la semaine dernière que l'insurrection était terminée et que le nord-est du Nigeria était maintenant dans une phase de stabilisation post-conflit.
Et l'ancien président américain Barack Obama a raconté aujourd'hui des souvenirs de sa famille kényane lors d'une visite dans l'ouest du pays. Il a inauguré un centre de jeunesse conçu par sa demi-sœur. Monsieur Obama effectuait son premier voyage dans le pays d'origine de son père depuis 2015. Alors président en exercice, il n'avait pas pu venir dans le village familial car, a-t-il dit, son avion était trop gros pour atterrir à Kisumu sur les rives du lac Victoria.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les forces syriennes ont progressé aujourd'hui face aux rebelles dans le sud du pays en guerre. Ils ont repris le contrôle de plusieurs localités et ont bombardé un secteur sensible situé près d'Israël. La contestation en Irak entre dans sa 2e semaine. Le mouvement est émaillé de violences meurtrières et met en lumière la détresse sociale d'une grande part de la population. Bagdad connaît une 15aine d'années de conflits ininterrompus. Le solde migratoire pour les citoyens européens installés au Royaume-Uni est à son niveau le plus bas depuis 4 ans. L'Office des statistiques nationales britanniques a révélé que cette chute s'établissait à 100 001 personnes. En 2017, 139 000 habitants de l'Union européenne ont quitté le Royaume-Uni. Ils étaient 117 000 en 2016. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. place à la Muniteco, signé Jacques Aristide.
En Guinée, Conakry, la capitale, était quasiment à l'arrêt ce lundi, où l'appel à observer une nouvelle journée ville morte pour protester contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe a été largement suivi. Les stations-service et les commerces étaient également en grande majorité fermés. Le gouvernement justifie l'augmentation du carburant, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, par la hausse des cours mondiaux du pétrole. Il fait valoir que le maintien du prix de 8000 francs guinéens a coûté au budget de l'État plus de 80 millions de dollars au cours des 9 derniers mois et alimente un trafic vers des pays voisins où le carburant est plus cher. Une nouvelle rencontre entre le médiateur de la République, l'ancien Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et des représentants de la société civile était prévue ce lundi. Augmentation de 6,3% des réserves de change de l'Afrique l'an dernier, c'est ce qui ressort du rapport 2018 sur le commerce africain publié par l'Afrexim Bank, la banque africaine d'import-export. En clair, le stock des réserves de change du continent était à 421,53 milliards de dollars en 2017 contre 396,3 milliards en 2016. La raison, la hausse constante des cours des matières premières qui ont par ricochet conduit à un accroissement des recettes d'export. La China National Offshore Oil Corporation se dit disposée à investir une nouvelle enveloppe de 3 milliards de dollars dans son exploitation pétrolière et gazière au Nigeria. Cela fait suite à une rencontre avec la Nigerian National Petroleum Corporation à Abuja.
Et nous ouvrons votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Hier c'était la fin du mondial 2018 en Russie. La France sacrée championne du monde pour la deuxième fois 20 ans après. Et les Bleus ont déjà atterri à Paris, n'est-ce pas Yacouba?
Les joueurs de l'équipe de France ont atterri à l'aéroport de Roissy peu avant 15h temps universel. Au lendemain de leur victoire en finale de la Coupe du Monde, ils se sont ensuite rendus sur les Champs-Élysées pour y célébrer leur titre avec des dizaines de milliers de personnes qui les attendaient avant d'être reçus par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Écoutons l'un des défenseurs des Bleus qui s'est exprimé juste avant le départ de l'aéroport de Moscou, Raphaël Varane. Raphaël Varane.
Yacouba, il faut dire que les Croates n'ont pas du tout démérité et Zagreb a aussi accueilli en héros ses vice-champions.
Levez les mains, Croatie, ou encore joue ma Croatie, quand je te vois, mon cœur s'enflamme, a chanté la foule, drapeau au vent, maillot à damier rouge et blanc au dos. Plus de 100 000 personnes se sont réunies dans le centre de la capitale croate pour célébrer leur vice-champion héroïque en Russie. De l'aéroport, les joueurs se sont rendus au centre-ville dans un bus, se frayant difficilement un passage dans une foule intense.
Et parallèlement, Yacouba, en Italie, les supporters turinois acclamaient Cristiano Ronaldo.
Des centaines de fans ont accueilli un Cristiano Ronaldo plutôt réservé à Turin où la superstar portugaise a signé son contrat de 4 ans avec la Juventus. Ronaldo, ramène-nous la Ligue des Champions, ont scandé des fans avant la visite médicale de l'attaquant vedette. Ce nouveau contrat devrait lui rapporter quelque 30 millions d'euros par saison. Au total, le transfert devrait coûter 350 millions d'euros à la vieille dame.
Enfin, Yacouba, le Mondial 2018 à peine terminé, la Ligue des Champions africaine reprend ses droits.
8 rencontres sont au programme de la troisième journée demain, à suivre notamment les chocs TP Mazembe MC Alger, Mbabane Étoile du Sahel, Al Ahly Township Rollers et Oria Wydad Casablanca. Le WAC est prêt, d'après l'un de ses défenseurs, Ibrahim Komara.
Ça attend un gros match et sachant que l'équipe d'Oria est une bonne équipe, voilà, on est venu pour arracher un bon résultat, on s'est bien préparé. Je pense qu'on va s'en sortir avec un très bon résultat, Inch'Allah.
Ibrahim Komara. Dans les autres rencontres, l'Espérance de Tunis reçoit Kampala City Council. L'AS Togo Port fera face à Mamelodi Sundowns. Et Zesco United jouera le 1er 2 agosto.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manilakiza, de retour avec vous, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le président Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, se sont rencontrés aujourd'hui à Helsinki pour leur premier sommet bilatéral. Les deux chefs d'État ont plaidé en faveur d'une amélioration des relations entre les deux pays malgré l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans l'élection américaine de 2016. Le président Poutine a une nouvelle fois nié toute implication de son pays. Et pour analyse, Abdulrahman Dia a joint ici à Washington l'analyste politique Lorenzo Morris.
Beaucoup de monde, y compris quelques républicains, ont demandé l'annulation de ces rencontres suite à la montée d'évidence et même les chefs d'incompréhension contre les 12 espions ou des gens dits espions venant de la Russie et qui ont ingéré dans notre dernière élection présidentielle.
Oui, mais justement, tout à l'heure, lors de la conférence de presse commune, le président Poutine a encore une fois nié toute ingérence russe.
Il n'y avait pas de doute qu'il ne nierait. Il n'y avait pas de doute non plus qu'il ment, parce que l'évidence est bien trop forte. On ne sait seulement pas si des gens liés avec Trump étaient liés aussi avec cette ingérence, mais on a tant d'évidence que les Russes ont fait tant d'efforts à partir de publicité pendant la campagne, à partir de vols, des courriels du Parti démocrate, y compris une évidence importante de l'ingérence directe dans les scrutins de certains États pendant l'élection présidentielle.
Mais est-ce qu'on peut reprocher au président Trump d'essayer de réparer les relations entre les deux pays? Il n'est pas le premier président américain à rencontrer un chef d'État russe.
Oui, mais on est toujours ouvert à l'idée de rapprochement entre pays, mais par contre, président Obama, après l'ingérence de la Russie en Syrie et à Air, a annulé la réunion proposée avec lui. Il faut au même temps qu'on soit ouverte à un rapport avec un autre pays, qu'on exige un certain respect pour ses propres démarches démocratiques, un certain respect pour les processus internes d'un pays. On ne peut jamais accepter qu'un gouvernement étranger agisse directement dans notre politique.
Mais le président Trump, ce matin, a tweeté en disant que si les relations entre les deux pays sont aussi mauvaises, c'est un peu la faute des États-Unis. Vous êtes d'accord?
Personne n'est d'accord, même pas les membres de son propre parti. C'est simplement une politique pour établir un meilleur rapport avec ses supporters qui croient qu'il est menacé par un groupe de gens, de ce qu'on appelle ici l'establishment, un groupe de gens bien au pouvoir qui s'oppose à toute nouvelle politique, à tout changement.
Lorenzo Morris, professeur à Howard University.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Amnesty International affirme qu'il existe un lien étroit au Tchad entre la crise économique, les mesures d'austérité et les manifestations et la répression. C'est dans un nouveau rapport intitulé « Budget en chute, répression en hausse », l'ONG affirme qu'il est urgent que des réformes importantes soient engagées avant les élections législatives prévues en novembre. Nicolas Pinon a joint Balkissa Aïdé Sido, chercheuse sur l'Afrique centrale à Amnesty International.
Et on s'est rendu compte que depuis mi-2016, toutes les manifestations, les mouvements de grève qui ont eu lieu étaient uniquement liés à l'impact des mesures d'austérité sur les populations au Tchad. L'impact a conduit les gens à manifester leur mécontentement à travers des manifestations qui ont été systématiquement interdites, qui ont été réprimées par les forces de sécurité avec des manifestants arrêtés, certains condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 1 à 4 mois, et aussi qu'il y a eu énormément de mouvements de grève liés à ces mesures d'austérité-là. Donc vous voyez, c'est un peu comme un effet boule de neige. Les gens ne sont pas contents parce qu'il y a les mesures d'austérité. Ils manifestent leur mécontentement et en réponse, comment réagit les autorités? C'est en réprimant cette expression-là de ce mécontentement.
Comment ont réagi les autorités tchadiennes face à vos conclusions?
Le ministère de la Sécurité publique et de l'administration territoriale et bonne gouvernance a confirmé que les demandes d'autorisation de manifestations pacifiques sont automatiquement rejetées. Donc les manifestations sont automatiquement interdites, qu'elles soient pacifiques ou pas. Et la raison qu'ils ont évoquée était essentiellement liée à la sécurité. Donc ils nous ont dit que les manifestants sont, ne sont pas, les organisateurs de ces manifestations ne sont pas à même de contrôler les foules. Mais cela, c'est la responsabilité de l'État lorsque, d'après le droit international, les autorités doivent autoriser les gens à manifester pacifiquement. Et la manifestation, le droit de manifester pacifiquement ne peut être réduit, que restreint que dans quelques cas vraiment extrêmes de troubles à l'ordre public. Mais il est du devoir de l'État de s'assurer à ce qu'une manifestation ne dégénère pas.
Vous dénoncez aussi cette répression qui ne dit pas son nom, la perturbation des réseaux sociaux.
Moi, j'ai été ici au Tchad en février 2018, en mai, et je suis là encore. Quand on discute avec les gens, c'est confirmé. Pour accéder à WhatsApp, Facebook, par exemple, il faut forcément un VPN sur le téléphone. Nous avons demandé aux autorités pourquoi cette restriction. Ils nous ont expliqué que probablement les sociétés de télécommunications avaient un problème technique. Mais lorsque nous avons parlé aux agents des sociétés de télécommunications, eux nous ont expliqué qu'ils ont reçu l'ordre des autorités. Donc nous ne savons pas qui dit la vérité, mais nous demandons aux autorités de lever cette restriction-là, également de permettre l'accès à un certain nombre de blogs et de sites internet qui sont bloqués ici au Tchad.
Balkissa Aïdé Sido d'Amnesty International à N'Djamena.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
RDC, des Congolais s'interrogent sur le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. L'ancien leader de l'UDPS est décédé à Bruxelles il y a de cela 16 mois. La date du 30 juin 2018 annoncée par le ministre congolais de l'Intérieur n'a pas été tenue et les travaux de la commission mise en place pour l'organisation des obsèques sont au point mort. Le reportage est signé Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Trois mois après la signature par le gouvernement, la famille biologique et le parti politique de feu Étienne Tshisekedi d'un protocole d'accord sur le rapatriement et l'organisation des obsèques du leader de l'opposition décédé à Bruxelles le 1er février 2017, les travaux de la commission mise en place n'avancent pas. Et aucune partie ne sait nous dire clairement pourquoi. Basile Olongo, le vice-ministre en charge de l'Intérieur qui préside la commission, se contente de rassurer que les travaux vont reprendre incessamment.
Il y a eu une commission qui a été mise en place et de cette commission est née des sous-commissions. On devrait passer à l'étape de pouvoir désigner les membres qui devraient figurer dans ces sous-commissions. Ce qui a été fait par toutes les parties, la famille biologique, la famille politique et le membre du gouvernement. Et pour pouvoir avancer, la balle revenait au gouvernement de pouvoir décider sur le moyen, mais il devrait être fait un travail au préalable par la commission technique. Laquelle commission technique devrait réunir toutes les données, des études au préalable pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement.
À l'Union pour la démocratie et le progrès social, on parle de mauvaise foi. Augustin Kabuya, le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la communication, pointe le régime de Joseph Kabila du doigt pour justifier le blocage.
Voir les gens qui gèrent la République démocratique du Congo combattre même un corps sans vie, sans tenir compte même de la veuve Tshisekedi de Maman Marthe, il y a aujourd'hui 17 mois, jour pour jour, depuis que le fait docteur Étienne Tshisekedi nous a quittés. À une certaine époque, Maman Marthe avait lancé l'appel aux dirigeants africains d'intervenir dans les dossiers de son fait époux. Aucun chef d'État n'a parlé à Joseph Kabila pour qu'il comprenne quand même que non, nous sommes des Bantous, ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Le 26 mai, nous étions au cabinet du vice-premier ministre, le professeur Henri Movasakagne. Depuis ce temps-là, ils ne nous ont jamais contactés. On s'était mis d'accord pour mettre sur pied une commission qui devrait travailler sur le rapatriement. Les jours suivants, nous étions obligés d'amener nos listes de délégués au cabinet. Il y a même les accusés de réception. Depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de contact autour du dossier.
Dans la rue, quelques Kinois interrogés par VOA Afrique sur la question chargent également le gouvernement et recommandent que tout soit mis en place pour l'organisation des obsèques dignes de l'illustre disparu.
À son rang, nous ne croyons pas que le fait présent Étienne Tshisekedi pouvait traîner au moins 17 mois à l'extérieur. Ça prouvait suffisamment l'irresponsabilité de notre gouvernement. Récemment, il y a eu une commission qui avait été mise sur pied. Vous avez vu les grandes personnalités du gouvernement qui sont allées jusqu'à dire qu'au plus tard, le 30 juin, le corps sera rapatrié. Et puis il sera enterré dans de bonnes conditions. Dans de pays respectueux, ces genres de personnes seraient d'office chassées de ces gouvernements.
Pourquoi ils refusent le rapatriement? Ce sont des questions que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui, mais on ne comprend absolument rien.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute à la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Zoitech, Voitech, dit Hightech, Eric Manilakiza à la présentation. Eh bien, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités 24 heures sur 24. Excellente suite des programmes et à très bientôt.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord.